Lorsque vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Genèse, chapitre 15, les versets 1 à 6. Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision, en disant, « Ne crains point, Abram, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Et Abram répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et celui qui possédera ma maison est Éliézer de Damas. » Et Abram dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. » Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée, en disant, « Celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Puis il le mena dehors et lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta postérité. » Et Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui « Les trois actions de Jéhovah pour bénir Abraham l'inquiet ». On va voir que là-dedans, Abraham, même si on considère qu'il est le père des croyants, exprimait au Seigneur certaines inquiétudes qu'il avait face à certaines choses. On va voir de quelle façon Dieu répond aux inquiétudes du père des croyants. C'est très intéressant de regarder les inquiétudes du père des croyants et comment Dieu répond à tout cela. Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Seigneur, nous venons à tes pieds. Le livre de la Genèse est rempli de richesses, de beauté, de doctrine également, Seigneur. On te prie que ton esprit, ce matin, nous saisisse tous, ouvre notre intelligence, notre cœur, notre compréhension, et qu'on soit disposé, bien disposé, à recevoir ta parole dans nos cœurs, et Seigneur, qu'elle fasse un effet, qu'elle produise un effet transformateur, qu'elle nous rende meilleurs, qu'elle nous fasse ressembler davantage à Jésus-Christ. Et Seigneur, nous savons que seul ton esprit est capable de faire une telle œuvre. Alors c'est ce que nous te demandons de faire pour nous ce matin, de bénir non seulement nous qui sommes présents ici ce matin, mais bénir également ceux qui, par ta providence, seront mis en contact avec le présent sermon. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, les trois actions de Jéhovah pour bénir Abraham l'inquiet. La première action de Jéhovah, c'est celle de se révéler dans le verset 1. La deuxième action de Jéhovah, c'est celle de rassurer son serviteur. Et la troisième action de Jéhovah, c'est celle de le réconforter, parce que Dieu mentionne dans le verset 6 qu'il lui impute la foi qu'il a à la fois dans la déclaration divine et à la foi qu'il a au Messie à venir. Alors ça, c'est vraiment la combinaison des deux, et l'imputation, la doctrine de la justification trouve un petit peu sa racine ici, et on va voir que dans les Écritures, dans le livre de Romains en particulier, on développe l'idée de la justification, trouve sa racine un petit peu dans Romains 15:6. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé que les cinq premiers versets, on va les étudier un petit peu plus en profondeur cette semaine. Et la semaine prochaine, on va se servir du verset 6 pour un petit peu introduire et développer davantage la doctrine de la justification, parce que c'est une doctrine d'une importance capitale. Quand un chrétien saisit bien qu'est-ce que c'est la doctrine de la justification et qu'il garde ça en mémoire dans sa vie, dans sa marche chrétienne, il a fait définitivement un très grand pas. Et quand il est capable de plus de distinguer la justification de la sanctification et de comprendre comment fonctionnent les deux, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de confusion dans le monde chrétien sur ces deux doctrines-là. Alors il faut quelque part faire nos efforts pour essayer de placer ces choses-là dans leur juste perspective. C'est très important. Très, 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 très important. Alors, on se souvient que le verset commence dans le verset 1. Ça nous dit « après ces choses ». Alors, on fait référence à quoi, là? À quelle chose? Après quelle chose? Après la guerre. Après la guerre. Il y a eu guerre, les cinq rois contre les quatre rois, et on sait qu'Abraham a pris 318 de ses serviteurs et qui est allé reprendre le contrôle, et il a remis les biens, et il avait rencontré, on le sait, on a regardé un petit peu la semaine dernière, Melchisédek, il avait rencontré Melchisédek, et il avait rencontré également les demandes du roi de Sodome. Alors, quand on dit « après ces choses », faut se souvenir dans quel contexte. Si on ne se souvient pas du contexte, après ces choses, quelles choses? Il faut que tu les évoques dans ton esprit pour être mesure de comprendre. Alors, il avait rencontré les deux rois. On sait que Melchisédek, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, que Dieu se sert de ce type-là pour parler du Messie à venir, Jésus-Christ. Et on sait que Jésus-Christ n'était pas un sacrificateur comme dans l'Ancien Testament. Il fallait que tu sois un descendant de la tribu de Lévi. Et il ne l'était pas. Lui était de la tribu de Juda. Alors, il fallait que Jésus puisse établir pour s'identifier comme souverain sacrificateur, il fallait qu'il puisse établir son autorité, d'où il tenait l'autorité pour dire « je suis un souverain sacrificateur ». Alors, il l'apprend dans le psaume 110, je pense que c'était dans le verset 4, je me souviens bien. « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». C'est la raison pour laquelle le personnage de Melchisédek était un petit peu introduit dans ce passage-là. Et on aurait pu prêcher beaucoup plus, développer beaucoup plus l'idée de Melchisédek et son importance dans les Écritures et sa signification théologique aussi. Alors, Abraham revient de la victoire, et à cause de Melchisédek, qui remercie El Elyon, le Dieu Tout-Puissant, il prend conscience que nécessairement sa victoire ne vient pas de son habileté, de son intelligence et de sa sagesse. Elle vient de Dieu lui-même. Alors il prend conscience de cela. Il reconnaît aussi l'affirmation de Melchisédek en lui payant la dîme. Alors, c'était de prendre 10% de tous les biens qu'il avait recueillis dans la guerre et de les remettre à Melchisédek comme étant une preuve qu'il reconnaissait son autorité. Alors, quand on dit après ces choses, il faut se remettre ça en mémoire. On se souvient qu'Abraham avait agi de façon très magnanime, avec grandeur d'âme, quand il avait remis les biens, il avait dit au roi de Sodome, « Je ne veux aucun, même pas un lacet de chaussure qui vient des biens. Je te remets tout, excepté les biens de ceux qui sont venus avec moi, qui ont le droit d'avoir leur part. » Alors, il a agi avec avec grandeur d'âme, et aussi avec justice, en ne privant pas les autres de droits. Lui, s'il décidait de ne pas jouir des biens qu'il avait récoltés à la guerre, il n'avait pas à imposer sa façon de voir aux autres. Alors, il avait agi très sagement là-dedans. Alors, on avait vu aussi qu'il fallait que ce soit un homme qui avait vraiment un très grand détachement des choses de la terre pour être capable de faire une telle chose. Parce que c'était très tentant. Imaginez-vous la quantité de biens. Il était déjà riche, mais il aurait pu dire, ah, on sait, non, en général, les riches ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Plus ils en ont, plus ils en veulent. Alors, lui, ça aurait pu être son cas. Il aurait pu être tenté par cela, et il a démontré qu'il n'avait pas agi dans le but de s'approprier des biens, mais qu'il avait bien agi dans le but de libérer son neveu et de libérer aussi d'autres personnes et leurs biens. Maintenant, pour qu'on comprenne un petit peu le texte, il faut parler de quelque chose qui s'appelle le syndrome des après-victoires. Qu'est-ce que tu veux dire par un syndrome des après-victoires? On vit ça dans le monde spirituel aussi. Mais ici, on voit qu'il y avait une victoire, mais il était placé devant une peur. La peur était la suivante. Les cinq rois que j'ai battus, là, ça se peut-tu qu'ils décident de revenir? Puis les quatre rois, là, que je lui ai redonné leur bien, puis qui voient que j'étais un homme de puissance, que j'ai un certain pouvoir, à la fois militaire et de l'influence, ça se pourrait-tu qu'ils soient jaloux puis qu'ils se retournent contre moi? Alors là, on prend conscience que Le syndrome des après-victoires, c'est parfois de la peur, des peurs, des anxiétés. Là, tu peux te mettre à réfléchir. Ouais, c'est bien beau, j'ai gagné, mais c'est d'un coup qu'ils décident qu'ils reviennent et qu'ils se mettent avec les quatre. Tu sais, là, tu te mets, ta tête elle se met à bourdonner, tu as peur, tu as des anxiétés. Et aussi, ça se joignait avec une autre chose qui se passait dans sa vie. Il voyait qu'il vieillissait. Il voyait que le Seigneur lui a fait une promesse de lui donner la semence par laquelle le Messie viendrait. Et il prend de l'âge, il n'a pas de fils, le seul qu'il voit. Alors là, on voit un aspect de nos propres personnalités. On essaye de régler les problèmes à la place de Dieu. Quand Dieu te fait une promesse, là, inquiète-toi donc pas, il est capable, il a tous les moyens à sa disposition pour régler ce qu'il a à régler. Et ici, on voit que, qu'est-ce que Abraham fait? Il voit qu'il n'y a pas d'enfant, puis là, il dit, ben, si ça va se réaliser, il va falloir que ça se réalise par mon serviteur, parce qu'il ne voit pas de solution. Il ne voit pas la solution que Dieu est capable d'ouvrir la matrice de sa femme, que Dieu, ben, stérile. Mais que Dieu est capable de vaincre le problème de stérilité d'une femme, pour lui, il n'y a rien là. Alors, il ne voit pas ces choses-là et il est inquiet. Les promesses que Dieu a faites. Comment la semence peut venir si je n'ai pas d'enfant? Et le seul problème, la seule solution qu'il voit, lui, c'est son serviteur, Éliézer, qui deviendrait, en quelque sorte, sa semence. Mais Dieu, est-ce qu'il lui avait dit que ça serait un étranger? Alors, il avait besoin d'être assuré pour plusieurs raisons. Les possibilités de vengeance des rois, des 9 rois, pour différentes raisons. Et aussi le fait qu'il voit que sa vie avance, il vieillit, sa femme vieillit, et la fameuse promesse que Dieu lui avait faite ne se réalise pas. Et là, il est inquiet. Pour ça que j'ai intitulé « Les 3 actions de Jéhovah » pour bénir Abraham l'inquiet. Il est inquiet pour différentes choses. Et c'est très intéressant de noter que Dieu intervient à ce moment précis-là. Souvent, c'est quand on est dans les troubles jusqu'aux oreilles que Dieu, et qu'on souffre, que Dieu vient se manifester à nous en nous bénissant d'une façon ou d'une autre. Alors, la première action de Jéhovah pour bénir Abraham l'inquiet, on a dit que c'était l'action de se révéler. Alors, quand on lit le verset 15, chapitre 15, verset 1, « Après ces choses, qu'est-ce que Dieu a utilisé pour bénir, pour se révéler? » La parole. Alors, nous, quand on est dans le trouble, parfois, Dieu va se servir aussi de sa parole. Là, dans ce cas ici, c'est Dieu qui s'est adressé directement à lui de façon auditive, qu'il ait pu entendre. Mais Dieu nous parle aussi à travers sa parole pour venir nous donner du réconfort dans les moments difficiles. N'est-ce pas que ça arrive dans la vie? Moi, ça m'est arrivé à maintes et maintes reprises. Que parfois, on vit des désappointements, des difficultés, des souffrances, et que parfois, on lit un verset et ça nous soulage, ça nous fait du bien. Parce que Dieu parle à travers sa parole. Et ici, il le fait à Abraham. Alors, ça dit, il lui fut adressé à Abraham dans une vision. Une vision, quand on regarde ce que les commentateurs disent sur la vision, ils disent que la vision, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être soit un rêve, et ici, il y a un verset qui nous montre que ce n'était pas un rêve, et ou ça peut être soit une intervention divine qui te fait voir des choses de manière spirituelle. Pas nécessairement comme un film, là, mais c'est comme Dieu te fait comprendre des choses. Alors, ça peut être un ou l'autre, mais ici, c'est pas un rêve, parce que le verset 5 nous démontre que il n'était pas en train de rêver. Mais Dieu s'adresse à lui dans une vision. Et là, il lui parle et il lui dit des mots précis. Très précis. Ne crains point. Est-ce qu'on a tendance à craindre comme être humain, même comme être humain régénéré? On a toujours peur de tout et de rien. On est toujours en train de s'inquiéter pour tout et pour rien. Et combien de fois dans les Écritures le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter de rien? À maintes et maintes reprises, à la fois dans les Évangiles et à la fois dans les Épîtres, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Et ici, la première parole qu'il dit à Abraham l'inquiet, ne crains point. Et après, il lui donne des raisons. Voici les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas craindre. Je suis ton bouclier. Si vous avez peur que des rois viennent vous réattaquer pour différentes raisons, les quatre qui avaient été libérés, ça pourrait être pour des raisons de jalousie, les autres, ça pourrait être pour des raisons de vengeance, de te faire dire par Dieu lui-même, c'est moi qui te protège, personnellement. Je suis ton bouclier. Alors, un bouclier, qu'est-ce que ça fait? C'est que s'il y a des gens qui vous lancent des flèches, vous avez un bouclier, vous le mettez devant vous, les flèches tombent sur le bouclier, ça ne vous atteint pas. Alors, le Seigneur, il est en train de dire à Abraham, arrête de t'inquiéter, c'est moi personnellement qui te protège. Et il lui dit une deuxième chose ensuite. On sait qu'Abraham, à cause de sa générosité d'âme, d'avoir tout redonné les biens aux personnes concernées, excepté ceux qui avaient participé avec lui, il veut lui dire que, dans le fond, Abraham, tu n'as rien perdu. Parce que je suis ta grande récompense. Il voulait lui faire prendre conscience que Dieu lui-même est la récompense. Pensez-vous que Dieu lui-même, comparativement à un paquet de richesses terrestres, ça peut se comparer? Aucunement. Alors, il veut rappeler à son serviteur, inquiète-toi pas des représailles possibles que tu peux t'imaginer dans ton esprit qui peuvent arriver. Je te protégerai. Et qu'est-ce que ça laisse sous-entendre? Je suis. Alors, je suis est le grand Dieu qui est capable de le protéger beaucoup plus qu'il est capable de le concevoir même. Et le fait de lui dire, tu n'as rien perdu en perdant tous ces biens-là, tu as moi. Alors, si une personne est moindrement consciente de qui Dieu est, de se faire dire ça, moi, Dieu, je suis ta très grande récompense. Et voyez-vous, les mots, les Écritures, des fois, quand on prend chaque mot, je suis ta, donc à toi, ta récompense à toi, personnelle, très, il ne dit pas ta grande récompense, ta très grande récompense, même je dirais, on pourrait dire ton infiniment grande récompense, parce que Dieu est infiniment. Et vraiment, une récompense, ça veut dire que Dieu lui-même peut pas, on ne peut pas avoir une récompense plus grande que Dieu lui-même. Impossible. Alors, les observations qu'on peut faire sur le verset 1, c'est des choses importantes pour appliquer dans notre propre vie. C'est une révélation de Dieu qui est synchronisée. Quand on dit que c'est important de réaliser le moment où Dieu intervient, après ces choses, Dieu aurait pu intervenir dans la vie d'Abraham de bien des manières, à bien des façons, à bien des endroits. Il le fait à ce moment précis-là. N'est-ce pas qu'il y a une leçon pour nous aussi, dans notre vie de tous les jours? Dieu va se manifester souvent en bonté, en miséricorde et en grâce dans les moments difficiles de nos vies, dans les moments où nous aussi, on peut faire comme Abraham et être inquiet. Alors, c'est une révélation qui est synchronisée. Dieu fait, s'il le fait pour le Père des croyants, il le fait aussi pour nous, les simples croyants. Donc, Abraham, qui s'appelle encore Abraham à ce moment-là, a obtenu une victoire éclatante. Cependant, il commence probablement à comprendre les conséquences possibles de sa victoire. Il appréhende des dangers potentiels. Ils ne sont pas là encore, se sont pas manifestés encore, mais on sait jusqu'à quel point on est rapide pour la folle du logis qu'on appelle là, notre imagination, à part en bride, est dur à retenir quand à part. Alors, ces dangers sont la possible désir de vengeance des rois vaincus, et la jalousie des rois qui ont recouvré leur personne et leurs biens, voyant la puissance grandissante d'Abraham. Il aurait pu dire, « Ah, cet homme-là, il s'en vient pas mal, ça sera le temps de l'attaquer. » Alors, et il est anxieux aussi de l'accomplissement des promesses divines, et il vit des déceptions dans son cœur. On en vit-tu des déceptions dans nos cœurs? On en vit plein. Toute notre vie, Alors, il semble rencontrer des obstacles infranchissables. Bien sûr, si Dieu te dit, le Messie va venir par ta semence, et que toi, tu vois qu'il n'y a pas d'enfant, tu prends de l'âge, puis ta femme est stérile, il y a un problème dans le coco, là. Ma femme est stérile, donc je peux pas en avoir d'enfant. Puis moi, je m'en viens petit vieux, là. Fait que s'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'il se réalise, il faudrait que ce soit maintenant, là. Alors, il exprime à Dieu sa peur, ses anxiétés, ses difficultés. Il voit des difficultés, puis pour lui, ça lui semble infranchissable. N'est-ce pas que nous, parfois aussi, dans la vie, on rencontre des difficultés qui nous semblent infranchissables? C'est pas réglable, ce problème. Je serai jamais capable de régler ça. Oui, toi, il n'y a pas de problème là-dessus, pas de problème à accepter ça. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Alors, c'est aussi une révélation, on va regarder trois caractéristiques de la révélation. Synchronisée, deuxième, personnalisée, parce qu'il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, pas à sa famille, à lui personnellement. C'est lui qui s'inquiétait, c'est lui que Dieu considère comme le père des croyants, et c'est à lui que Dieu adresse la parole dans une vision. Alors, une vision, c'est simplement que Dieu montre d'une manière surnaturelle à nos esprits ou à nos yeux. Ça peut être les deux. Dieu pourra faire les deux. Et il y a des exemples bibliques. Quand tu vas dans un dictionnaire biblique, là, tu regardes le mot « vision », ils vont avoir une grand article qui va expliquer que dans les Écritures, on peut voir des visions, des fois dans des rêves, des fois c'est simplement une intervention de Dieu de manière surnaturelle pour te faire comprendre certaines choses. Donc, une révélation synchronisée, une révélation personnalisée. Quand Dieu veut nous encourager, il n'encourage pas ton voisin, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Il t'encourage toi, personnellement. De penser qu'un aussi grand Dieu que le Seigneur s'occupe de nous, pauvres vermisseaux, de façon personnelle. C'est quelque part, si on comprenait la grandeur de Dieu là, et la grâce qu'il nous fait en faisant cela, là, on tomberait littéralement sur nos faces en adoration. J'en suis pleinement convaincu. Et c'est une révélation qui est centrée sur sa personne. Une révélation que c'est comme il veut qu'Abraham comprenne certaines choses qui concernent lui-même, Dieu, Jéhovah. Alors, il dit « Ne crains point. » Un ordre. « Énerve-toi pas. » Abraham, « Je suis ton bouclier et je suis ta très grande récompense. » Alors, le Seigneur veut rassurer son serviteur concernant les craintes qui l'assaillent, la peur des représailles possibles et la conscientisation plus développée de la grandeur infinie de sa personne, en l'occurrence lui-même. Alors, il veut que Abraham élargisse sa compréhension de Dieu lui-même. C'est moi qui te protège. Et ta récompense est beaucoup plus grande que tout ce que tu aurais pu gagner en biens matériels. C'est tellement grand que tu ne peux même pas comprendre. La grandeur infinie de Dieu, le côté insondable de la personne de Dieu, c'est une doctrine tellement glorieuse et tellement merveilleuse que l'éternité ne suffira pas pour qu'on découvre qui Dieu est, exhaustivement. Autrement dit, on va le connaître de mieux en mieux, de plus en plus, mais jamais complètement. Parce que sa grandeur est trop grande. Alors, quand il lui dit ici, je suis ta très grande récompense, chaque mot est vraiment pesé. Alors, si Abraham élargit sa compréhension de qui Dieu est, de quelle façon il intervient dans sa vie, bien sûr, il va être rassuré. Alors, il lui dit que Jéhovah lui-même est son bouclier. On le sait, un bouclier, ça sert à protéger en temps de guerre. Alors, le Seigneur désire qu'Abraham réalise pleinement qu'il jouit de sa pleine protection, et ceci de manière constante. Peu importe les circonstances, comment ils peuvent se développer, Dieu est en train de lui rappeler que je te protège toujours. Alors, bien sûr, la source de la protection, c'est Dieu lui-même, donné par pure grâce, et aussi, il le fait maintenant, et il va le faire toujours, toute la vie d'Abraham. Alors, bien entendu, quand on est protégé par Dieu lui-même, est-ce qu'on peut douter, est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant? Bien sûr, c'est tout suffisant, et elle est toujours présente, et elle est personnelle, Et elle est, on peut parler de l'étendue de la protection de Dieu, complète, universelle, qui comporte toutes les sortes de maux et toutes les sortes d'attaques. Et elle est durable. Et la question de sa très grande récompense, on peut lire Jean 3, 36. Le Seigneur lui-même dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, pas aura, a. Celui qui croit au Fils, c'est nous, ça dit qu'on a la vie éternelle, pas qu'on l'aura. On l'a déjà, on est déjà en pleine possession. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le fait que le croyant vivra dans la plus absolue félicité et dans la découverte incessante des perfections infinies de Dieu est une récompense tellement élevée que nous ne saisissons que très partiellement la nature et la richesse de ce cadeau ineffable. Le mot ineffable, ça veut dire que même le plus savant, le plus habile des écrivains, le plus habile des hommes ne pourra jamais donner une idée exacte de la grandeur de Dieu. Quand on en parle, il faut être conscient que Dieu est beaucoup plus grand de ce qu'on est capable de concevoir. Alors, quand Dieu lui dit « Je suis ta très grande récompense », il faut le prendre au mot. Alors, la première chose qu'il a fait... Alors, le fait d'avoir la personne même de Dieu comme récompense, c'est quelque chose de tellement grand que même Abraham, là, après qu'il a reçu la révélation, après qu'il a commencé à l'évaluer peut-être dans son esprit, il ne comprenait pas vraiment pleinement qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire. Parce que ça dépasse notre capacité de compréhension. La deuxième action que Abraham fait, c'est celle de le rassurer. Pourquoi? Parce que dans les versets 2 à 5, Abraham est en train d'exprimer à Dieu ses peurs, ses anxiétés, ses problèmes, autrement dit, que lui voit comme étant insurmontables. Dans les versets 2 et 3, alors dans la vie d'Abraham, comme dans la nôtre, il y a des difficultés. Il y a ce qu'on pourrait appeler des perplexités. Il y a des choses que ça nous semble que Dieu n'est pas capable d'arranger ça. C'est tellement... complexe, c'est tellement difficile. Des perplexités, on en a tous dans nos vies. Alors, on a des difficultés, on a des perplexités et on a des souffrances qui sont reliées au fait que nous avons la foi. Alors, on prend un exemple. Quelqu'un qui doute de son salut, selon vous, est-ce que c'est souffrant? C'est très souffrant de douter de son salut. Maintenant, Comment on peut régler un problème de cette nature-là quand il se présente dans nos vies? Parce que on est en train d'étudier là, dans la doctrine de l'assurance. Il y a un lien direct entre ton degré de sanctification et le fait que tu es absolument sûr, sans aucune hésitation, que tu es sauvé. Alors, si il y a des doutes, peut-être que c'est ton degré de sanctification qui est pas assez élevé. Tu n'utilises pas tous les moyens de grâce que Dieu met à ta disposition pour t'approcher de lui, pour te purifier, pour te sanctifier. Alors, ça révèle probablement un problème dans ta vie. Ça, ça en est un, mais il y en a plein d'autres. Alors, des difficultés, des perplexités, des souffrances qui sont reliées au fait que nous sommes des croyants. Alors, dans les versets 2 et 3, on voit vraiment la personne d'Abraham qui exprime à Dieu ses difficultés, ses perplexités, ses souffrances qui sont reliées au fait qu'il est un croyant. Il dit, et Abraham, après que, voyez-vous, ça démontre une chose. Dieu parle et dit, « Inquiète-toi pas, ne crains pas, je suis ton bouclier et je suis ta très grande récompense. » Et on voit le père des croyants. Est-ce qu'il a vraiment compris ce que le verset 2 dit? Verset 1 dit? Je ne pense pas qu'il l'a pleinement compris. Parce que ça dit, « Et Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? » Il vient de lui dire que sa grande récompense, c'est lui-même. Puis là, il dit, « Que me donneras-tu? » Parce que là, lui, il revient à ses problèmes intérieurs. Il dit, je m'en vais sans enfant. Je suis aveugle de crever, là, puis j'en ai pas d'enfant. Et celui qui possédera ma maison est Éliézer de Damas. Autrement dit, il est en train de dire qu'il y a un étranger qui fait partie de sa famille, que lui, il va considérer que c'est par lui que Dieu va réaliser sa promesse de donner la semence et la venue future du Messie. Et dans le verset 3, « Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. » Voyez-vous, la promesse avait été faite, sur le coup, il le crut, mais avec le temps, elle ne se réalisait pas aussi vite que lui aurait voulu. Et là, il commence à avoir des doutes, des difficultés. Comment ça peut arriver? Alors, il dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. » Il n'a pas de fils. Comment la postérité qu'il lui a promise par sa descendance peut arriver quand tu n'as pas d'enfant? C'est vrai que c'est une énorme difficulté au point de vue humain. Parce que lui, il vole dans les sphères humaines. Tandis que Dieu, il vole dans les sphères divines. On n'est pas dans le même monde, là. Alors, il dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. » Très intéressant. Abraham exprime son désarroi, mais il l'exprime avec un grand respect de la personne de Dieu. Alors, l'expression « Seigneur éternel », c'est la traduction des mots hébreux « Adonai », qui veut dire « Adonai », c'est le Dieu souverain, le gouverneur, le juge de la terre. Il s'adresse à lui, avec ce nom-là, Abraham, « Seigneur éternel ». Le mot « Seigneur éternel », c'est deux mots hébreux. Le premier, c'est « Adonai », le deuxième, c'est « Jéhovah ». Donc, « Jéhovah », c'est le Dieu de l'alliance. Quand Dieu fait une alliance avec l'homme, il tient sa promesse. Alors, Abraham est très perplexe et ne comprend absolument pas comment Dieu pourra réaliser sa promesse. Il demeure dans la sphère terrestre. Il réalise qu'il n'y a pas encore de fils, que sa femme est stérile et qu'il prend de l'âge. Ça, c'est vraiment un problème sérieux. Je n'ai pas d'enfant, ma femme, elle ne peut pas en avoir, puis moi, je m'en viens petit vieux. Alors, il ne voit pas la possibilité. Mais voyez-vous la bonté du Seigneur? Le Seigneur va le rassurer. C'est pour ça que le deuxième point, quand on dit Dieu intervient, premièrement, il s'est révélé, et la deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va le rassurer. Alors, nos complaintes, j'ai bien aimé cette expression-là, j'ai trouvé ça dans un livre de théologie, il dit, nos complaintes pieuses et respectueuses de croyants sont acceptables de devant Dieu. Autrement dit, comme croyant, on a le droit de présenter à Dieu les problèmes que l'on vit. Si on le fait d'une manière respectueuse, on peut prendre le modèle de... Et ça se doit d'être distingué des murmures impies contre Dieu. Voyez-vous, ici, sont acceptables devant Dieu ces plaintes et ces expressions de peur, d'anxiété, de perplexité. Alors, tu peux les présenter devant Dieu, mais ça devient impie quand tu parles contre Dieu. Il n'a pas dit à Dieu que tu n'es pas capable de faire ça. Il a juste exprimé que lui, il ne voyait pas la solution possible. Il était incapable de se l'imaginer. Alors, trois choses le font souffrir et il les exprime respectueusement au Seigneur. Premièrement, il désire avoir un fils, pas quelqu'un de sa maison que tu peux considérer comme « Oh, ben il m'est tellement cher, il est comme un fils pour moi. » C'est pas ça qu'il veut. Il veut avoir un fils, son fils. Deuxième problème, il lutte pour continuer à croire que Dieu accomplira sa promesse malgré les difficultés qui lui semblent infranchissables, insurmontables. Et troisième chose qu'il fait souffrir, il conserve espoir que son espérance... C'est à quoi son espérance? L'espérance, faut pas... si on enlève Jésus-Christ de l'équation, on manque un gros morceau. Alors, il est en train... Son espérance, c'est que sa semence serait la courroie de transmission pour amener le Messie, le sauveur de l'humanité. Alors, il se dit, j'ai pas de fils, Comment tout ça va pouvoir se réaliser? Alors, la promesse de la venue par lui sera finalement réalisée. Il se pose des questions, comment ça pourrait arriver? Galates 3,16. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ce verset-là à maintes et maintes reprises depuis qu'on fait Genèse. Parce que Galates 3,16 est la clé de compréhension de la promesse de Dieu à Abraham. Parce que ça dit, or, Galates 3,16, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et à ses postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule. Et à ta postérité qui est Christ. Autrement dit, toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, c'était concernant sa postérité. Et sa postérité, ce n'était pas sa descendance, nécessairement juste sa descendance physique. C'était que Dieu se servirait de lui pour amener Christ sur la terre. Ça, c'est important à saisir ça, parce que les promesses, comme ça se dit dans Galates 3,16, ont été faites à Abraham et à sa postérité, et on établit c'est qui la postérité dans le Galates 3,16. C'est pas, on part pas en peur et dit « Oh, ben, probablement que ça veut dire ça. » Galates 3,16 interprète les promesses que Dieu a faites à Abraham dans Genèse. Alors, le Seigneur veut réconforter son serviteur en lui mentionnant qu'il réalisera sa promesse. Chose intéressante, c'est que le Seigneur va lui dire que sa postérité, ça va être par son fils, ça va être un des maillons. Mais il ne lui dit pas comment. Voyez-vous, on peut être rassuré parce que Dieu nous dit, mais Dieu ne nous donne pas nécessairement toutes les notions qu'on aurait besoin de comprendre. Il ne lui dit pas, ben ta femme est stérile, elle ne sera plus stérile. Toi, t'es-tu vieux, mais c'est pas grave, je suis capable de passer par-dessus ça. Et il lui explique pas. Il fait juste le rassurer. Je t'ai dit que que Christ viendrait par ton fils et tu vas l'avoir ton fils. C'est très intéressant de noter tout cela. Et là, verset 5, je le trouve tellement... Ce verset-là, il faut s'arrêter, il faut mesurer, il faut imaginer, puis il faut regarder les notions de la science moderne pour vraiment réaliser qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Genèse 15, verset 5. Alors, qu'est-ce qu'il utilise? Il rassure dans les difficultés, les perplexités et les souffrances, mais il le fait par sa parole. Alors, quelle leçon on a à apprendre de Dieu là-dedans? C'est que Dieu aussi va, devant les circonstances similaires dans nos propres vies, Dieu va se servir de sa parole pour nous rassurer. Et c'est intéressant de voir ici que le Seigneur va utiliser ce qu'on pourrait appeler la visualisation sensorielle. Souvent, on se plaint qu'on ne voit pas Dieu, on ne voit pas... Et ici, il veut... que Abraham voit quelque chose. Il se sert d'une illustration de sa création pour faire comprendre un principe extrêmement important à Abraham. Alors, puis il le mena dehors et lui dit, c'est qui ce... Il le mena dehors. Dieu. Dieu a mené Abraham dehors. Et là, il lui a parlé et dit, regarde vers le ciel. Imagine-toi, à cette époque-là, il n'y avait pas de pollution lumineuse. Quand tu levais tes yeux au ciel la nuit, c'était hallucinant. Là. Moi, j'ai connu cette expérience-là juste une fois dans ma vie. C'était à Lac Mégantic. Je suis allé à l'observatoire de Lac Mégantic. Et ça, c'est près de Notre-Dame-des-Bois. Notre-Dame-des-Bois, ils ont mis cet observatoire-là sur la plus haute montagne de la région pour la simple et bonne raison que dans cette région-là, il n'y a pas de pollution lumineuse. Alors, quand tu regardes avec un télescope dans le ciel, dans cette ville, dans ce village-là, même sans télescope, là, moi, quand j'y avais été, c'était un soir de décembre, et tu regardais le ciel, c'était... J'avais jamais vu ça, même à Lac Mégantic, mais aucunement dans ma vie. Là. La première fois que je voyais un ciel lumineux comme cela. Alors, ici, il dit, il le mène d'ailleurs, il dit, regarde vers le ciel. Et là, il lui demande quelque chose. Compte les étoiles. Tu essaieras ça dans un ciel vraiment lumineux, là. Tu essaieras ça, tu m'en donneras des nouvelles. Et il compte les étoiles, puis là, il lui dit quelque chose, par exemple. Si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta postérité. Il parle de la postérité de Christ et de tous ceux qui, à cause de la foi en Christ, les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament, ensemble, ils disent, regarde, là, tout ce monde-là, ça va être aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je voudrais vous partager trois choses concernant les expressions que Dieu utilise parfois pour parler du nombre de croyants qu'il va y avoir à cause du Messie. Premièrement, dans Genèse 13, au verset 16, il se sert de l'expression « la poussière de la terre ». Je ne sais pas si ça vous allume, mais la poussière de la terre, c'est nombreux, cela. Il dit « et je ferai, si Dieu parle, que ta postérité, Christ, sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, voyez-vous, deux fois, il dit, compte les lumières, les étoiles du ciel, si tu peux compter, compte les grains de poussière de la terre, si tu peux compter, encore là, il dit, et ta postérité sera aussi, sera comptée. Dans Genèse 15, 5, il regarde vers le ciel. Les fils de la rédemption, autrement dit, c'est nous, tous les croyants de l'Ancien Testament, tous les croyants qui ont vécu jusqu'ici et tous les croyants qui vivront jusqu'au retour du Seigneur, il est en train de parler du nombre on pourrait les appeler les fils de la rédemption. Maintenant, je vous avais parlé que dans la Bible, il y a une Bible qui existe. Je me suis acheté une copie. Si jamais vous lisez l'anglais, je vous la conseille très fortement parce que c'est une Bible qui a été faite par des Américains. Et la caractéristique qu'elle a, c'est que chaque chapitre vous donne des leçons, des applications pratiques pour votre vie quotidienne de tous les jours. Et ça, je trouve ça fantastique. Imaginez-vous, vous prenez tous les chapitres de la Bible sans exception, et à la fin du chapitre, vous dites, voici ce qui s'applique à ta vie de tous les jours. Prends les leçons qui sont là-dedans, là, puis applique-les dans ta vie. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je me suis dit, tellement merveilleux qu'on puisse trouver qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on comprenne et qu'on mette en pratique dans notre vie de tous les jours. Alors, dans cette Bible-là, à la page 8, pour être précis, elle s'appelle « The Reformation Heritage King James Version Study Bible ». Et je vous l'avais déjà donné dans une autre leçon, mais on va le répéter une autre fois. Si un ordinateur pouvait observer 10 millions d'étoiles à la seconde. Imaginez-vous, vous observez le ciel, puis l'ordinateur serait capable d'en identifier 10 millions. Dans une seconde, combien ça prendrait d'années pour les compter toutes? 63 millions d'années. 10 millions d'étoiles à la seconde, puis ça prendrait 63 millions d'années pour les compter toutes. Ça vous donne-tu une idée de la grandeur de la création du Seigneur? C'est incroyable, incroyable, c'est hallucinant. Moi, j'appelle ça « mind-bogging », les Anglais appellent. C'est comme ton esprit devient mathématiquement, là. Je sais qu'il y en a qui sont capables de faire des affaires à la 3, à la 45, à la puissance 45, pour exprimer ça, là. Mais j'avoue que des mathématiques exprimées de cette façon-là, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Disons que tu dirais 10 à la 45, ouais, OK. Tu ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Mais quand tu regardes ça comme ça, un ordinateur, 10 millions d'étoiles à la seconde, puis ça prendrait, imaginez-vous, à la seconde, ça prendrait 63 millions d'années pour les compter toutes. Là, ça vous donne-tu une idée? Quand Dieu dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux. Il y a quelque chose que je bats de... Et, il y en a un autre. Dans le psaume 147, au verset 4, et dans Isaïe 40, verset 6, ça dit « Dieu appelle toutes les étoiles par leur nom ». Même le chiffre, là, tu prends 10 millions à la seconde, combien il y a de secondes dans 63 millions d'années? Je ne sais même pas, je n'ai pas fait le calcul. Alors, il faudrait que tu prennes le nombre d'heures qu'il y a dans 63 millions d'années. Il faudrait que tu multiplies ça par 60. Ça ferait des chiffres que ça nous dépasse. Ça nous dépasse largement. Et si ça nous dépasse, moi, quand j'arrive devant un groupe de 50 personnes, on me les présente un en arrière de l'autre. 5 minutes après, je ne me souviens plus d'aucun nom, ou presque pas. Alors, notre mémoire à nous, elle est vraiment petite. Mais le Seigneur, il dit que toutes ces étoiles-là, que je ne peux pas même vous donner le chiffre, il leur a donné, lui, un nom, et il les connaît toutes par leur nom. Voyez-vous, on va faire une autre estimation mathématique. Ça vient encore de la même Bible. Et cette fois-là, c'est à la page, à page 7. L'on estime, dans la Bible, ça dit, l'on estime à 200 milliards le nombre d'étoiles de la Voie lactée. Un milliard, c'est 1000 millions. 200 milliards, le nombre d'étoiles de la Voie lactée. Ça, c'est une galaxie. Une galaxie. On estime que l'univers compte 100 milliards de galaxies. Moi, quand je dis ça, là, ça me fait prendre conscience de la grandeur du Seigneur. Notre petite Voie lactée, là, c'est notre galaxie à nous. La Terre est là-dedans. 200 milliards le nombre d'étoiles. Puis 1 milliard, c'est 1000 millions. Ça, c'est juste une galaxie. La nôtre, 200 milliards. Maintenant, on estime qu'il y a 100 milliards de galaxies. Je ne sais pas si ça fait monter vos esprits, mais moi, ça fait monter le mien terriblement. Et dans le psaume 8, verset 3, ça nous dit « Les étoiles sont l'œuvre de ses doigts. » Imaginez-vous, tout ça, là, c'est même pas toute sa puissance qui est utilisée, juste ses doigts. C'est incroyable. Alors là, je pense que peut-être qu'Abraham n'avait pas ces chiffres-là à son époque, fort probablement pas, mais juste regarder, se lever les yeux vers le ciel et regarder un ciel lumineux, c'est déjà, tu regardes ça, tu dis, je suis jamais capable de compter ça. Et dans le fond, le Seigneur est en train de lui faire prendre conscience. Ta semence, elle va venir. Le Messie, il va venir. Alors, tous les croyants de l'Ancien Testament, ils croyaient au Messie à venir. Tous les croyants du Nouveau Testament ont cru au Messie venu. L'ensemble de tout ça, le Seigneur, il dit, regarde au ciel, puis tu vas avoir une idée à peu près du nombre de la semence de Christ. Très, très intéressant. Quand je vous disais, comment ça serait juste pour ce fait-là, là, que j'ai trouvé dans ce livre-là, là, ça en vaut amplement le prix. Mais j'ai regardé dans d'autres chapitres. Ça, c'est une chose intéressante. À ma connaissance, il n'existe rien en français comme ça. C'est de valeur. Ça devrait exister. Parce que tu prends le chapitre 1 de la Genèse, tu le lis, puis au bout, en bas, les notes de bas de page, voici les applications pour ta vie d'aujourd'hui, tous les jours, à toi. Prends le chapitre 2 de la Genèse, tous les chapitres de la Bible. Alors, c'est une richesse extraordinaire. Quand quelqu'un veut faire des cultes de famille ou un culte personnel, si tu lis l'anglais, c'est une source de très, 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 très grande bénédiction. Parce que tu ne lis pas la Bible de façon juste superficielle. Ceux qui ont bâti ça se sont donné la peine de dire quels sont les principes que le Seigneur veut te faire comprendre à toi aujourd'hui en lisant ce chapitre-là. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire ça, d'avoir été capable de faire ça pour tous les livres de la Bible. Et il utilise une autre expression un petit peu plus loin aussi pour nous parler du nombre des sauvés en Jésus-Christ, qui est dans Genèse 22, les versets 17. Et là, il parle encore à Abraham en lui parlant qu'il va le bénir. Il dit « Je te bénirai certainement Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, il l'avait déjà mentionné dans le chapitre 15, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Le sable qui est sur le bord de la mer. Imaginez-vous, vous faites le tour de la terre, partout où il y a du sable, puis vous essayez de compter les brins de sable. Je vous souhaite bonne chance. Alors, le Seigneur utilise des expressions qui sont très... quand on dit qu'il répond ici à Abraham par la visualisation sensorielle, on est tous capables d'imaginer c'est quoi la poussière de la terre. On est tous capables d'imaginer les cieux, même si on ne les voit pas au complet. On est tous capables de voir le sable qui est sur le bord de la mer. Alors, le Seigneur utilise des expressions qui répondent à nos besoins de voir les choses avec nos sens. Quand je regarde le sable qui est sur le bord de la mer, je vois qu'il y en a en quantité industrielle. Et ça, c'est juste quand tu vas sur une plage au Mexique, tu es loin de voir tout le sable qui est sur le bord de la mer. Tu vois le sable qui est sur le bord de la mer dans une municipalité ou une chose bien précise. Alors, Daniel, chapitre 12, verset 3, nous parle aussi des croyants, comment on va briller quand on va être rendu au ciel. Alors, ça dit de Daniel, chapitre 12, verset 3, « Ceux qui auront été intelligents, ça c'est sûr, c'est les croyants, brilleront comme la splendeur de l'étendue. » Quand on regarde tout ça, là, avec un microscope, ça doit être encore plus, pour utiliser une expression québécoise, plus trippant. Tu regardes ça, tu vois ça, tu dis « wow ». Tu dois avoir un grand « wow » avec un gros « W » majuscule. Alors, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. On va-tu briller si on ne brillera pas? L'étendue est splendide. Elle brille. Le Seigneur nous dit que nous, quand on va être rendu au ciel, on va briller comme cela. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles. Là, j'ai jamais vu le commentaire comment il explique la différence entre splendeur de l'étendue et des étoiles, mais il semble que Dieu veut établir dans le verset 3 du chapitre 12 de Daniel que ceux qui vont avoir amené des âmes à Christ, l'idée semble qu'ils vont briller davantage. Parce que ça dit, ceux qui en auront amené plusieurs à la justice, donc ceux qui auront évangélisé et qui auront eu par leur intermédiaire ou leur influence les amener à la justice, brilleront comme des étoiles juste pour quelques jours. Non. À toujours et à perpétuité. C'est quelque chose de glorieux, merveilleux. Alors, on vient de faire le tour des premiers versets. Il nous resterait le verset 6 à examiner. Comme j'ai parlé, ça introduit la notion de l'imputation et de la justification. Et on va relier ce verset-là avec d'autres versets de Romains en particulier, pour nous, et de Romains et de d'autres passages, pour nous montrer que Dieu, le passage, ce qui est mentionné ici dans Genèse 15, verset 6, c'est utilisé dans d'autres passages des Écritures pour développer le concept de la justification et de l'imputation, qui est une notion essentielle à comprendre. Alors, la semaine prochaine, ce qu'on fera, c'est qu'on va prendre ce verset-là et on va regarder comment Dieu se sert de cela pour nous parler du concept de la justification. Alors, si vous posez dans votre tête qu'est-ce que c'est la justification, ben vous allez le savoir si vous venez la semaine prochaine. Alors, soyez tous là. C'est important que vous compreniez bien cela. Alors, on va terminer là-dessus.